Chapitre 7. Le navire dragon. Il resta un moment lové, oublieux de tout, reposant dans un isolement feutré comme dans le sein maternel. Yémin n'avait conscience que de son corps, et il y œuvrait comme il avait jadis œuvré à son vitrail. La seule différence, c'était qu'il s'agissait plus d'une restauration que d'une création. Il trouvait dans son travail un plaisir serein qui faisait vaguement écho à des souvenirs d'enfance quand il empilait des cubes. Les tâches qui se présentaient à lui étaient simples, évidentes, et la besogne répétitive. Il ne faisait qu'ordonner à son corps d'accomplir plus rapidement ce qu'il aurait fini par effectuer de lui-même. La concentration et la volonté de son esprit accélérèrent le travail acharné de son corps. Le reste de sa vie s'était effacé dans un silence absolu. Il ne songeait qu'à réparer l'animal qu'il habitait. C'était un peu comme se trouver dans une petite chambre douillette tandis qu'au dehors se déchaîne une violente tempête.
« Assez !»
grommela le dragon. Yémin se recroquevilla davantage devant son irritation. « Je n'ai pas fini » plaida-t-il.
« Non, le reste se fera tout seul si tu nourris ton corps et que tu l'encourages de temps en temps. Je n'ai que trop tardé à cause de toi. Tu es assez fort maintenant pour que nous affrontions tous ce que nous sommes, et c'est ce que nous allons faire. »
Ce fut comme si on l'avait attrapé et projeté en l'air. Tel un chat affolé, il battit des bras et griffa dans tous les sens, cherchant à se raccrocher à quelque chose, n'importe quoi. Il trouva Vivacia.
« Yémin !»
Son exclamation ne fut pas un cri de joie articulé, mais une brusque vibration à l'instant où elle reprenait contact. Ils étaient réunis, et dans cette réunion, ils étaient à nouveau complets. Elle pouvait le sentir, éprouver ses émotions, percevoir les odeurs avec son nez, goûter avec sa bouche, sentir par sa peau. Elle connaissait sa douleur et souffrait atrocement pour lui. Elle connaissait ses pensées et...
Quand on tombe en rêve, on se réveille toujours avant le choc. Pas cette fois-ci. Le réveil de Yémin fut le choc. L'amour, la dévotion qu'elle lui portait se heurtèrent à la connaissance angoissée qu'il avait de la nature de Vivacia.
Il lui renvoyait dans ses pensées le reflet d'un visage de cadavre. Dès qu'elle se vit dans ce miroir, elle ne put en détacher les yeux. Il était prisonnier avec elle dans cette contemplation. Il se sentit tiré de plus en plus profond dans le désespoir de Vivacia. Il plongea avec elle dans l'abîme. Elle n'était pas Vivacia. Pas vraiment. Elle n'avait jamais été que la vie dérobée d'un dragon. Sa pseudo-vie était accrochée au reste de la mort d'un dragon. En réalité, elle n'avait pas le droit d'exister. Les ouvriers du désert des pluies avaient éventré le cocon du dragon en pleine métamorphose. On avait jeté le germe de sa vie, il avait péri en se tordant sur la dalle froide, tandis que les fils de mémoire et de connaissances qu'il avait enrobés étaient arrachés et découpés en planches pour construire des vives nefs. La vie lutte pour continuer, à tout prix. Un ouragan abat un arbre dans la forêt. Des rameaux jaillissent de son tronc. Une graine minuscule parmi les cailloux, et le sable va saisir une gouttelette de rosée et faire germer une provocante pousse verte. Immergé dans l'eau salée, bombardé des souvenirs et des émotions des humains qui montaient de la vive nef, les fibres de la mémoire dans son bordage avaient cherché à s'aligner dans un semblant d'ordre. Elles avaient accepté le nom qu'on avait donné au navire. Elles s'étaient appliquées à saisir la signification de ce qu'elles vivaient à présent. Vivacia avait fini par s'éveiller. Mais le fier navire et sa superbe figure de proue ne faisaient pas véritablement partie de la famille Vestrite. Non. Sa vie à elle était une vie volée.
Elle n'était qu'une demi-créature, moins que cela, un être improvisé, bricolé à partir de volontés humaines et de souvenirs de dragons ensevelis, un être asexué, immortel et en fin de compte, insignifiant. Un esclave. On avait utilisé les souvenirs volés d'un dragon pour créer un grand esclave de bois. Le hurlement déchirant qui s'échappa de Vivacia arracha Yémin à l'inconscience. Il roula sur lui-même, tomba par terre, atterrit lourdement sur les genoux à côté de la couchette. Eta, qui était à son chevet, se réveilla en sursaut.
« Yémin ? »
s'écria-t-elle horrifiée en le voyant se relever.
« Attends, non, tu n'es pas bien, couche-toi, reviens !»
Il sortit en titubant, suivi par ses cris, et se dirigea vers le gaillard d'avant. Il entendit des bruits provenant de la chambre du capitaine, Kenneth qui hurlait qu'on lui apporte sa béquille et de la lumière.
« Eta, tonnerre, où es-tu quand j'ai besoin de toi ?»
Mais Yémin ne s'y arrêta pas davantage. Seulement couvert d'un drap, il boitait et l'air de la nuit brûlait sa peau qui se cicatrisait. Des matelots de car ahuris s'interpellaient. L'un attrapa une lanterne et le suivit. Yémin ne fit pas attention à lui. Il gravit les degrés qui menaient au gaillard d'avant en deux foulées qui déchirèrent sa peau, et il se précipita en avant jusqu'à se pendre pratiquement par-dessus la lisse.
« Vivacia ! »
s'écria-t-il.
« Je t'en prie, ce n'est pas ta faute. Jamais. Vivacia !»
La figure de proue se lacérait. Les grands doigts de bois s'entortillaient dans les boucles noires et tentaient de les arracher. Elle se labourait les joues de ses ongles, s'enfonçait les doigts dans les yeux.
« Pas moi !»
cria-t-elle au ciel nocturne.
« Jamais moi ! Oh, saint tout-puissant ! Je ne suis qu'un bouffon obscène, une abomination à tes yeux ! Laisse-moi partir alors ! Laisse-moi être morte !»
Gankis avait suivi Yémin.
« Qu'est-ce qui ne va pas, mon garçon? De quoi souffre le navire ?»
demanda le vieux pirate, mais Yémin n'avait Dieu que pour la vive nef. La lumière jaune de la lanterne révélait une vision d'horreur. Les ongles de Vivacia avaient beau creuser des sillons sur les joues parfaites, la chair fibreuse se refermait aussitôt. Les cheveux qu'elle s'arrachait flottaient dans ses mains, étaient absorbés, et sa crinière restait aussi épaisse et brillante qu'avant. Yémin contemplait épouvanté ce cycle de destruction et de renaissance.
« Vivacia »
répéta-t-il, et il s'élança de tout son être en elle, cherchant à la réconforter, à la calmer. Le dragon l'y attendait. Il le repoussa aussi facilement qu'il s'enroula autour de Vivacia et l'étreignit. C'était l'esprit qui provoquait le désir de mourir du navire.
« Non !» Pas après toutes ces années de répression, tous ces siècles de silence et d'immobilité. Je ne veux pas être mort. Si c'est l'unique vie que nous pouvons avoir, alors nous la vivrons. Reste tranquille, petite esclave. Partage cette vie avec moi, ou que c'en soit fini de toi.
Yémin était pétrifié. En ce lieu qu'il ne pouvait atteindre qu'en esprit, un conflit terrible se déroulait. Le dragon se battait pour vivre, alors que le navire luttait pour les faire mourir tous les deux. Il avait l'impression que son être infime était un chiffon que deux chiens se disputaient entre eux. Il était écartelé, déchiré dans leurs poignes, alors que l'un et l'autre revendiquaient sa loyauté et emportaient son esprit. Vivacia le retenait dans son amour et son désespoir. Elle le connaissait si bien. Il la connaissait si bien. Comment son cœur pouvait-il être différent de celui du navire? Elle le tira à elle. Ils vacillèrent, sur le point de sauter volontairement dans la mort. L'oubli total les tenait, leur faisait signe. C'était, le persuadait-elle, la seule solution. Que leur restait-il? Cet éternel sentiment d'injustice? Ce terrible fardeau d'une vie volée? Allait-il choisir cela?
Yémin!
Dit Kenneth d'une voix entrecoupée, en se hissant sur l'échelle vers le gaillard d'avant. Yémin se retourna mollement pour le regarder. La chemise de nuit à demi rentrée dans les culottes se gonflait autour du pirate dans la brise du soir. Son pied unique était nu. Dans un petit coin de sa tête, Yémin remarqua qu'il n'avait jamais vu Kenneth aussi débraillé.
Il y avait une peur panique dans le regard du capitaine, toujours si froid et sardonique.
« Il nous sent, » pensa Yéma. « Il commence à se lier à nous. Il sent qu'il se passe quelque chose et ça l'effraie. »
Éta passa la béquille au capitaine. Il s'en saisit et traversa le pont en se balançant pour rejoindre Yéma. Il lui empoigna l'épaule et cette étreinte était l'étreinte de la vie qui le retenait de sauter dans la mort.
« Qu'est-ce que tu fais, mon garçon ? »
demanda-t-il furieux. Puis sa voix s'altéra. Il regardait horrifié au-delà de Yéma.
« Dieu des poissons, qu'as-tu fait à mon navire ?»
Le garçon se retourna vers la figure de proue. Vivacia s'était contorsionné pour contempler la foule des matelots inquiets qui s'amassaient sur le pont. Un homme poussa un cri perçant quand les yeux de la vive nef se mirent à chatoyer d'une lueur verte. La couleur tourbillonnait tandis que les pupilles étaient plus noires que la nuit. Elle n'avait plus visage humain. Ses mèches noires qui flottaient dans la brise ressemblaient davantage à un nid grouillant de serpents. Les dents qu'elle leur montrait dans une parodie de sourire étaient trop blanches.
« Si je ne peux pas vaincre, »
dit-elle en exprimant les pensées du dragon,
« alors personne ne vaincra. »
Lentement, elle se détourna. Elle leva ses bras écartés comme pour embrasser la mer. Puis, toujours avec la même lenteur, elle les baissa pour étreindre la coque du navire derrière elle.
« Yéma, Yéma, au secours !»
Vivacia ne suppliait que dans l'esprit du garçon. Elle n'avait plus la maîtrise de la bouche ni de la voix de la figure de proue.
« Meurs avec moi !»
supplia-t-elle. Il faillit lui obéir. Il faillit la suivre dans l'abîme. Mais au dernier moment, il en fut incapable.
« Je veux vivre !»
s'entendit-il crier dans la nuit.
« je t'en prie, laisse-nous vivre !»
Il crut un instant que ces paroles avaient ébranlé la résolution de Vivacia. Un silence étrange suivit son exclamation. Même la brise nocturne parut retenir son souffle. Il prit conscience que quelque part, un matelot bredouillait une prière enfantine, puis un autre bruit, plus faible, lui parvint aux oreilles. C'était un craquettement continu comme le bruit de la glace qui se fendille sur un lac quand on s'aventure trop loin.
« Elle est partie !»
souffla Éta.
« Vivacia est partie !»
En effet, même à la pâle clarté de la lanterne, le changement était évident. Les couleurs, l'apparence de la vie avait quitté la figure de proue. Aussi gris qu'une pierre tombale était devenu le bois de son dos et de ses cheveux. Nul souffle de vie ne l'animait. Les boucles sculptées étaient figées, insensibles à la caresse de la brise. La peau était aussi délavée qu'une vieille palissade. Yéma la chercha à tâtons dans son esprit. Il saisit une trace pâlissante de son désespoir, telle une odeur qui s'évapore dans l'air. Puis même cela disparut, comme si on avait claqué une porte entre eux.
« Le dragon ?»
marmonna-t-il pour lui-même. Mais s'il était toujours à l'intérieur de son esprit, il s'était trop bien caché pour être perçu par les pauvres sens de Yéma. Il respira à fond puis soupira.
Seul dans sa tête à nouveau. Depuis combien de temps n'avait-il eu en lui ses seules pensées?
Après un instant, il prit conscience de son corps. L'air frais irritait ses brûlures. Ses genoux flageolaient et il se serait effondré sur le pont si Éta ne l'avait soutenu de son bras passé autour de lui. Il s'affaissa contre elle. Le contact sur sa peau toute neuve réveilla la douleur, mais il était trop faible pour avoir même un mouvement de recul. Éta regardait d'un air affligé au-delà de lui, vers Kénith. Yéma suivit la direction de son regard.
Jamais il n'avait vu un homme aussi accablé de chagrin. Le pirate se penchait loin au-dessus de la lisse de proue, les yeux rivés au profil de Vivacia, les traits figés de souffrance. Des rides que Yéma n'avait jamais remarquées paraissaient gravées sur sa figure. Le noir de ses cheveux brillants et de sa moustache tranchait sur son teint cireux. Kenit était plus diminué par le trépas de Vivacia que par la perte de sa jambe. L'homme vieillissait à vue d'œil. Il tourna la tête et croisa le regard de Yéma.
Elle est morte ?
Demanda-t-il, rigide.
Une vive nef peut mourir ?
Ses yeux imploraient une réponse négative.
Je ne sais pas, reconnut Yéma avec réticence. Je ne la sens plus, plus du tout. Le vide en lui était trop terrifiant pour qu'il le jauge. Pire qu'une dent tombée, plus mutilant que son doigt manquant. Son absence, c'était une crevasse terrible, béante. Et il avait pu une fois souhaiter cela? Il fallait qu'il ait été fou.
Kenneth se retourna brusquement vers la figure de proue.
« Vivacia ? »
appela-t-il sur un ton interrogateur. Puis il hurla.
« Vivacia ! »
du cri furieux, désolé d'un amant éconduit.
« Tu ne peux pas me laisser maintenant ! Tu ne peux pas avoir disparu !»
Même la légère brise s'apaisa. Sur le pont, le silence était absolu. L'équipage paraissait aussi abattu par le chagrin de son capitaine que par le trépas de la vive nef. Etta rompit le silence.
« Viens, » dit-elle à Kenneth. « Il n'y a plus rien à faire ici. Yéma et toi devriez descendre pour parler. Il a besoin de manger et de boire. Il ne devrait pas être debout. Ensemble, vous pourrez réfléchir sur ce qu'il faut faire maintenant. »
Yéma comprit ses intentions. L'attitude du capitaine ébranlait l'équipage. Il valait mieux qu'ils disparaissent de leur vue jusqu'à ce qu'ils se soient ressaisis.
« Je vous en prie !»
croassa Yéma en joignant sa prière à celle d'État.
Il fallait qu'il s'éloigne de cette figure de proue affreuse, immobile, grise. La regarder, c'était pire que contempler un cadavre en décomposition.
Kenneth leur jeta un regard égaré, comme s'ils étaient des étrangers. Ses yeux se ternirent soudain alors qu'il reprenait son sang-froid.
« Très bien !» Fais-le descendre et occupe-toi de lui. »
Sa voix était dénuée de toute émotion. Il reporta son attention sur l'équipage.
« Retournez à vos postes, »
marmonna-t-il. Ils ne réagirent pas immédiatement. Quelques physionomies exprimaient de la compassion, mais la plupart des hommes le dévisageaient vaguement comme s'ils ne le connaissaient pas.
« Et l'Est ?»
dit-il d'une voix cassante. Il n'avait pas haussé le ton, mais l'intonation les poussa à se ruer pour obéir. L'instant d'après, le gaillard d'avant était déserté, ne restait que Yéma, Etta et Kenneth. Elle attendit le pirate qui avançait gauchement en déplaçant sa béquille qu'il finit par ajuster sous son bras. Il s'éloigna de la lisse en sautillant et se précipita vers l'échelle.
« Allez l'aider !» chuchota Yéma. « Je peux me débrouiller !»
Elle acquiesça d'un simple hochement de tête. Elle le laissa pour s'occuper de Kenneth. L'unijambiste accepta son assistance sans protester, ce qui ne lui ressemblait pas plus que sa récente manifestation d'émotion. En voyant avec quelle tendresse Etta l'aidait à descendre, Yéma ressentit d'une façon plus aiguë encore son propre isolement.
« Vivacia ? »
s'enquit-il à mi-voix dans la nuit. Le vent soupira en l'effleurant, lui rappelant sa peau brûlée et sa nudité. Mais il avait été dépouillé de Vivacia comme de sa propre peau, ne restait plus qu'une souffrance d'une autre nature. La nudité de son corps n'était rien en comparaison de sa solitude dans la nuit. Durant un instant de vertige, il saisit l'immensité de la mer et de l'univers autour de lui. Il n'était qu'un atome de vie sur ce pont de bois ballotté par les vagues. Avant, il avait toujours perçu la taille de Vivacia, sa force qui le protégeait du monde dans son ensemble. Il ne s'était pas senti aussi petit et abandonné depuis que tout enfant il avait quitté la maison.
« Ça !»
murmura-t-il, sachant qu'il devait être capable d'atteindre son Dieu pour être consolé. Ça avait toujours été là pour lui, bien longtemps avant qu'il n'ait embarqué et se soit lié au navire. Autrefois, il avait été persuadé d'être destiné à la prêtrise. Maintenant, alors qu'il se tendait pour atteindre à l'effroi sacré, il comprit qu'en prononçant ce mot, il ne faisait que prier pour que Vivacia lui soit rendue. Il eut honte. Son navire avait-il donc remplacé son dieu? Croyait-il vraiment qu'il ne pourrait vivre sans elle? Il s'agenouilla sur le pont enténébré, mais ce n'était pas pour prier. Ses mains glissèrent sur le bois à l'aveuglette. Là, les taches devaient se trouver là, où son sang s'était mêlé aux bordées et les avait unies dans un lien qu'il ne partageait avec personne d'autre. Mais quand sa main mutilée découvrit l'empreinte sanglante, ce fut par la vue, non par le toucher. Car il ne sentait rien d'autre sous sa paume que la fine texture du bois sorcier. Il ne percevait rien du tout.
« Yéma ?»
Etta était revenue le chercher. Debout sur l'échelle, elle regardait fixement le garçon à croupeton sur le pont.
« Je viens, »
répondit-il, et il se releva d'un bond.
« Tu veux encore du vin ?»
demanda-t-elle à Yéma. Le gamin secoua la tête sans mot dire. D'un gamin, assurément, il avait l'apparence, enroulé dans un drap propre tiré du lit de Kenneth. Etta le lui avait tendu quand elle l'avait entraîné, titubant dans la cabine. Sa peau, qui se desquamait, ne tolérait pas le contact des vêtements. Maintenant, il était perché incommodément sur une chaise de l'autre côté de la table où était assis Kenneth. Etta voyait bien qu'il ne pouvait trouver aucune position susceptible de le soulager. Il avait mangé un peu, mais n'en semblait pas revigoré pour autant. Aux endroits rongés par le venin, la peau était écarlate et luisante. Avec les plaques rouges épelées sur sa tête tondue, il lui évoquait un chien galeux. Mais le pire, c'était son regard morne. Ses yeux reflétaient le chagrin et la solitude qui habitaient ceux de Kenneth. En face de Yéma, le pirate était échevelé, la chemise à demi boutonnée. Lui, si soucieux de son apparence, il semblait l'avoir complètement oublié. Etta pouvait à peine supporter de regarder l'homme qu'elle avait aimé. Depuis qu'elle le connaissait, il avait d'abord été un simple client, puis l'homme qu'elle avait désiré. Quand il l'avait emmené, elle avait pensé que rien ne pourrait lui donner plus de joie. La nuit où il lui avait dit qu'il l'aimait, sa vie en avait été transformée. Elle l'avait vu grandir, passé de capitaine d'un seul vaisseau à commandant d'une flotte de navires pirates. Bien plus, les gens l'acclamaient à présent comme le roi des îles des pirates. Elle avait cru l'avoir perdu durant la tempête quand il avait plié à sa volonté la mer et le serpent, car elle ne pouvait être digne d'un homme choisi par ça pour accomplir un grand destin. Elle avait pleuré sa grandeur, pensa-t-elle honteuse. Il s'était élevé et elle en avait été jalouse. Elle avait redouté qu'il lui fût enlevé. Mais cela, c'était mille fois pire. Ni bataille, ni blessure, ni tempête ne lui avaient fait perdre courage. Jamais jusqu'à cette nuit, elle ne l'avait vu hésitant ou égaré. Même à présent, il se tenait droit, il buvait sec son eau-de-vie, les épaules carrées, la main ferme. Cependant, quelque chose avait disparu en lui. Elle en avait été témoin. Elle avait vu cette chose s'écouler avec la vie du navire. Il était de bois comme l'était devenu Vivacia. Elle craignait de le toucher de peur de découvrir que sa chair était aussi dure et solide que le pont. Il se racla la gorge. Yéma lui lança un regard comme apeuré.
« Alors ?»
Le mot était aussi tranchant qu'une lame.
« Tu crois qu'elle est morte ? Comment ? Qu'est-ce qui l'a tuée ? »
Ce fut au tour de Yéma de s'éclaircir la gorge avec un petit chevrotement.
« C'est moi. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai appris qui l'a tuée. Ou ça l'a entraînée si loin au tréfonds d'elle-même qu'elle n'a pas pu revenir jusqu'à nous. » Il déglutit, il luttait sans doute contre les larmes. Peut-être a-t-elle simplement compris qu'elle avait toujours été morte. Peut-être était-ce seulement parce que je la croyais vivante qu'elle restait en vie.
Kenneth reposa brutalement son verre sur la table avec un bruit sec.
« Ne dis pas n'importe quoi !»
gronda-t-il hargneux.
« Pardon, commandant, j'essaie d'expliquer. »
Le garçon se frotta les yeux d'une main tremblante.
« C'est long, c'est embrouillé. Mes souvenirs se mélangent avec mes rêves. Je m'en suis toujours douté, je crois. Dès que j'ai été en contact avec le serpent, tous mes soupçons sont brusquement venus s'ajouter à ce qu'il savait. Et j'ai su. »
Yémin leva les yeux, croisa le regard de Kenneth et blêmit devant la fureur aveugle qui se lisait sur le visage du pirate.
Il poursuivit précipitamment. « Quand j'ai découvert le serpent prisonnier dans l'île des autres, j'ai d'abord cru que c'était un animal pris au piège, rien de plus. Il était malheureux, j'ai décidé de le délivrer comme je l'aurais fait pour n'importe quelle bête. Aucune créature de ça ne devrait subir un sort si cruel. Pendant que j'essayais de le délivrer, j'ai eu l'impression qu'il était plus intelligent qu'un ours ou un chat. Il savait ce que je faisais. J'ai réussi à retirer plusieurs barreaux et il s'est échappé. Mais en passant près de moi, il m'a frôlé. Cela m'a brûlé. Au même moment, je l'ai reconnu. C'est comme si un pont s'était créé entre nous, comme le lien que je partage avec le navire. J'ai connu ses pensées et il a connu les miennes. »
Il respira à fond et se pencha sur la table. Dans ses yeux se lisait le désir désespéré d'être cru.
« Kenneth, les serpents sont des œufs de dragon. Pour je ne sais quelle raison, ils ont été emprisonnés dans leur forme marine, incapables de retourner à leur lieu de métamorphose pour devenir des dragons à part entière. Je n'ai pas pu tout saisir. J'ai vu des images, j'ai pensé à travers lui, mais c'est difficile d'exprimer tout cela avec des mots. Quand je suis retourné à bord de la Vivacia, je savais que la vive nef était destinée à devenir un dragon. J'ignore comment. Il y a des étapes entre un serpent et un dragon. Une période durant laquelle le serpent est enrobé d'une sorte de peau dure. Je crois que c'est ça la nature du bois sorcier. L'enveloppe d'un dragon avant sa métamorphose. Pour je ne sais quelle raison, les marchands du désert des pluies l'ont transformé en navire. Ils ont tué le dragon, ont découpé son enveloppe en planches pour construire une vive nef.
Kenneth tendit le bras vers le flacon d'eau de vie. Il saisit le goulot comme s'il voulait l'étrangler.
« N'importe quoi. Ce que tu dis ne peut pas être vrai. »
Il leva le flacon et l'espace d'un instant effrayant, Etta crut qu'il allait faire sauter la cervelle du garçon. Elle devina à l'expression de Yémin qu'il redoutait la même chose, mais il ne broncha pas. Il resta en silence à attendre le coup, presque comme s'il accueillait volontiers la mort. Mais Kenneth se contenta de se verser de l'eau de vie qui déborda un peu sur la nappe blanche. Sans s'en préoccuper, il leva le verre et l'avala d'un trait.
« Sa colère est trop violente, » pensa soudain Etta. « Il y a quelque chose d'autre là-dessous. Quelque chose de plus profond et de plus douloureux que la perte de Vivacia. »
Yémin continua, le souffle entrecoupé.
« Je peux seulement vous dire ce que je crois, commandant. Si ce n'était pas vrai, je ne pense pas que Vivacia l'aurait cru au point d'en mourir. Une partie d'elle a toujours su. » Un dragon dormait en elle depuis toujours. C'est notre contact avec le serpent qui l'a réveillé. Le dragon a été furieux de découvrir ce qu'il était devenu. Quand j'étais inconscient, il a exigé que je l'aide à partager la vie du navire.
Il hésita. Il passa quelque chose sous silence quand il poursuivit.
Le dragon m'a réveillé aujourd'hui. Il m'a réveillé et m'a forcé à entrer en contact avec Vivacia. Je m'étais empêché de communiquer avec elle, car je ne voulais pas qu'elle apprenne ce que je savais, c'est-à-dire qu'elle n'avait jamais été vraiment vivante. Elle était la coquille morte d'un dragon oublié que, d'une façon ou d'une autre, ma famille a accaparé pour servir ses propres fins. »
Kenneth inspira sèchement par les narines. Il se laissa aller en arrière sur son siège et fit taire le garçon d'un geste impérieux.
« Et c'est ça, le secret des vives nefs ?»
railla-t-il.
Impossible. Quiconque a connu une vive nef refuserait de croire à ces absurdités. Un dragon à l'intérieur d'elle. Un navire en peau de dragon. Tu as les idées brouillées, mon garçon. Ta maladie t'a détraqué la cervelle.
Mais Eta, elle, le croyait. La présence du navire lui avait limé les nerfs depuis qu'elle avait mis le pied sur le pont. Maintenant, tout s'éclairait. Comme un instrument qu'on a accordé, l'hypothèse était en harmonie avec ses intuitions. C'était vrai. Il y avait toujours eu un dragon à l'intérieur de Vivacia. D'ailleurs, Kenith le savait. Eta l'avait déjà surpris à mentir. Elle l'avait entendu lui mentir à elle, mais elle ne l'avait jamais vu se mentir à lui-même. Il n'était pas très doué pour ça. Il était trahi par la trémulation de sa main alors qu'il se versait une nouvelle rasade d'eau de vie. En reposant son verre, il déclara abruptement
« Pour ce que je dois faire, il me faut une vive nef. Il faut que je la ramène à la vie. »
« Je ne crois pas que ce soit en votre pouvoir, » répondit doucement Yémin.
Kenith grommela.
« Tu perds bien vite ta foi en moi. Il n'y a pas si longtemps, ne croyais-tu pas que j'étais l'élu de ça? Il y a quelques semaines à peine, n'as-tu pas parlé en mon nom, en proclamant que j'étais destiné à être leur roi s'ils savaient se montrer dignes de moi? Une foi si petite, si fragile, qui casse à la première épreuve. Écoute-moi, Yéma Vestrit. J'ai arpenté le rivage de l'île des autres, et leur prédiction a confirmé mon destin. D'un mot, j'ai apaisé la tempête. J'ai commandé à un serpent de mer et il s'est plié à ma volonté. Pas plus tard qu'hier, je t'ai rappelé aux portes de la mort, misérable ingrat. Et te voilà ici, à te moquer de moi. Tu dis que je ne peux pas redonner la vie à mon navire. Comment oses-tu? Tu tentes de saper mon règne? Celui que j'ai traité comme mon fils chercherait-il à me piquer comme un scorpion aujourd'hui?
Eta demeurait à sa place, à l'extérieur du cercle de clarté de la lanterne suspendue au-dessus de la table, et elle observait les deux hommes. Les émotions défilaient sur le visage de Yémin. Elle fut impressionnée de pouvoir les déchiffrer aussi nettement. Quand avait-elle ainsi baissé sa garde au point de connaître aussi bien quelqu'un? Pire, elle avait mal pour lui. Lui, comme elle, était déchiré entre l'amour pour l'homme qu'ils avaient suivi si longtemps et la crainte de sa puissance. Elle retint son souffle, espérant que Yémin trouverait les mots justes.
« Ne l'irrite pas, » supplia-t-elle en silence. « Si tu l'irrites, il ne t'entendra pas. »
Yémin respira à fond. Des larmes tremblaient dans ses yeux.
« En vérité, vous m'avez traité mieux que ne l'a jamais fait mon père. Quand vous êtes arrivé à bord de la Vivacia, je m'attendais à mourir de votre main. Au contraire, vous m'avez sommé tous les jours de trouver ma vie et de la vivre. Kenith, vous êtes plus qu'un capitaine pour moi. Je crois vraiment sans conteste que vous êtes l'instrument de la volonté de ça. Nous le sommes tous, bien sûr, mais je crois qu'il vous a réservé un destin plus grand qu'à la plupart d'entre nous. Néanmoins, quand vous parlez de rappeler Vivacia à la vie, je ne doute pas de vous, mon capitaine. Je doute plutôt qu'elle ait jamais été vivante, au sens où vous et moi sommes vivants. Vivacia était une contrefaçon, une créature composée des souvenirs de mes ancêtres. Le dragon a été réel autrefois. Mais si Vivacia n'a jamais été réelle, et que le dragon est mort quand on l'a créé, elle, qui allez-vous rappeler à la vie?
Plus rapide qu'une langue de serpent, l'hésitation passa sur le visage de Kenith. Yémin l'avait-il surprise? Le jeune homme se tut. Sa question restait en suspens entre eux. Incrédule, Eta le vit lever légèrement la main. Très lentement, il la tendit à travers la table comme s'il voulait toucher la main du pirate dans un mouvement de... quoi, compassion?
Oh, Yémin, ne fais pas cette erreur!
Si Kenith remarqua la main tendue, il ne le manifesta pas. Les paroles de Yémin ne semblaient pas l'avoir touché du tout. Il dévisageait le garçon et Eta comprit clairement qu'il parvenait à une décision. Il leva lentement le flacon d'eau-de-vie et se versa une autre rasade. Puis, il allongea le bras et prit le verre vide de Yémin. Il lui servit une généreuse mesure et reposa le verre devant lui.
Bois,
ordonna-t-il avec brusquerie.
Ça t'infusera peut-être un peu de feu dans les veines. Et ne me dis pas que je ne peux pas faire cela. Dis-moi plutôt comment tu vas m'y aider.
Il avala l'alcool d'une lampée.
Car elle était vivante, Yémin. Nous le savons tous. Alors, quelle qu'ait été la vie qui l'animait, c'est cette vie-là qu'on va rappeler.
Yémin approcha lentement sa main du verre. Il le leva puis le reposa.
Et si cette vie-là n'existe plus, commandant? Si elle a simplement disparu?
Kenneth se mit à rire, un rire qui glaça Etta. Ainsi un homme peut-il rire sous la torture quand les hurlements ne suffisent plus à exprimer sa souffrance?
Tu doutes de moi, Yémin? C'est parce que tu ne sais pas ce que moi je sais. Ce n'est pas la première vive-nef que j'ai connue. Elle ne meurt pas si facilement. Là, tu peux m'en croire. Maintenant, avale cette eau-de-vie, voilà. C'est un bon petit gars. Etta, où es-tu? Qu'est-ce qui t'a pris d'avoir mis sur la table une bouteille presque vide? Va m'en chercher une autre et plus vite que ça.
Le garçon ne tenait pas l'alcool. Kenneth le fit sans peine rouler sous la table.
La putain le dorlotera, ça l'occupera.
Emmène-le dans sa cabine,
dit-il. Elle le remit sur pied sous le regard plein d'indulgence du pirate. Yémin tituba à ses côtés à l'aveuglette, entendant une main tâtonnante devant lui dans la coursive. Kenneth les suivit des yeux. Assuré qu'il avait maintenant un peu de temps à lui, il fourra fermement la béquille sous son bras et se leva d'un bond. D'une démarche pesante et prudente, il se dirigea vers le pont. Il était peut-être légèrement ivre lui-même. La nuit était belle pourtant. Les étoiles étaient lointaines, une gaze de nuages en voilait l'éclat. La mer avait un peu grossi, mais la coque svelte de la Vivacia fendait la lame avec une grâce rythmée. Le vent était régulier et avait fraîchi, avec même un léger sifflement quand il coupait les voiles. Kenneth tendit l'oreille en fronçant les sourcils, mais le son s'évanouit. Il fit lentement le tour du pont. Le second était à la barre. Il salua son capitaine d'un hochement de tête sans mot dire. C'était aussi bien. Il devait y avoir une vigie dans la mâture, mais elle était invisible dans l'obscurité, hors de portée des lanternes sourdes du navire. Kenneth se déplaçait lentement, le frappement de sa béquille en contrepoint de son pas feutré. Son navire. La Vivacia, c'était sa vive nef, et il la ramènerait à la vie. Et alors elle saurait qu'il était son maître, elle lui appartiendrait comme jamais elle n'avait appartenu à Yémin. Sa propre vive nef, c'est ce qu'il méritait, depuis toujours. Morbleu, c'était juste, il la méritait depuis toujours, sa vive nef. Rien ne pourrait la lui enlever, rien. Il en était venu à haïr la courte échelle qui menait du Frontillac au gaillard d'avant surélevé. Il réussit à grimper et point trop maladroitement, ma foi, puis s'assit un moment pour reprendre son souffle tout en affectant de scruter la nuit. Enfin, il tira à lui sa béquille, se releva et s'approcha de la lisse de proue. Il embrassa la mer du regard. À l'horizon, des îles formaient de petits monticules noirs. Il jeta un seul coup d'œil à la figure de proue grise. Puis, il porta plus loin son regard, sur l'eau. « Bonne nuit, ma douce dame de mer !» la salua-t-il. « Une belle nuit et un bon vent qui nous pousse. Que demander de plus ?» Il tendit l'oreille à son silence comme si elle lui avait répondu.
« Oui, c'est bien. » Je suis aussi soulagé que toi de voir Yémin sur pied. Et bien sûr, j'ai chargé Etta de le veiller. Ce qui nous laisse une ou deux minutes à nous tout seuls, ma princesse. Maintenant, qu'est-ce qui te ferait plaisir ce soir? Je me rappelle un charmant vieux conte des terres du Sud, tu aimerais l'entendre?
Seul le vent et la mer lui répondirent. Le désespoir et la colère guerroyaient en lui, mais, bien loin de les exprimer, il souriait cordialement.
Très bien, alors. C'est un vieux conte qui date d'avant Jamelia. On dit qu'en réalité c'est une légende des rivages maudits, contée dans les terres du Sud qui se la sont appropriées.
Il s'éclaircit la gorge. Paupières mi-closes, il parla avec les mots de sa mère, avec les inflexions rythmées du conteur. Comme elle comptait, il y avait si longtemps,
avant qu'Igrotte ne lui coupât la langue, tranchant ses paroles à jamais.
Il était une fois, en des temps très anciens, une jeune fille d'esprit délié mais de maigre fortune. Ses parents étaient âgés et à leur mort, elle hériterait du peu qu'ils possédaient. Elle aurait pu peut-être s'en contenter, mais les vieux qui radotaient un peu décidèrent d'arranger son mariage. Ils lui choisirent pour fiancé un fermier qui avait une honnête fortune mais point du tout d'esprit. La fille comprit sur le champ qu'elle ne trouverait jamais le bonheur avec lui, qu'elle ne pourrait même le souffrir. Alors Edria, car tel était son nom, quitta ses parents, son foyer et...
Erlida était son nom, Nigo.
Vivacia se tordit lentement pour le regarder. Le mouvement fit passer dans le dos de Kenith une secousse glacée. Elle se tournait en ondulant, le corps affranchi des entraves humaines. Ses cheveux étaient subitement devenus d'un noir de jais, moirés de lueurs argentées. Les yeux dorés qui croisèrent les siens reflétaient les pâles clartés des lanternes et lui renvoyaient la lumière. Quand elle lui sourit, sa bouche s'ouvrit trop largement et les dents qu'elle lui montra paraissaient à la fois plus blanches et plus petites qu'avant. Ses lèvres étaient trop rouges. La vie qui mouvait en elle à présent chatoyait avec les reflets glacés d'une peau de serpent. Sa voix était rauque, indolente.
Si tu tiens absolument à m'assommer avec une histoire vieille comme le monde, au moins conte-la comme il faut.
Le souffle resta coincé dans sa gorge. Il allait répondre, mais se ravisa. Tais-toi, fais-la parler, laisse-la se trahir d'abord. Le regard de la créature sur lui était comme une lame sur son cou, mais il se refusa à manifester sa peur. Il se força à soutenir son regard sans sourciller.
« Erlinita !»
insista-t-elle.
« Et ce n'était pas à un fermier qu'on l'avait donné, mais à un potier qui vivait au bord de la rivière et qui passait sa journée à malaxer de la glaise humide. » Il faisait des pots grossiers maladroits, tout juste bons à servir de seau à ordures ou de vase de nuit.
Elle se détourna pour regarder fixement la mer noire.
Ainsi, dit la légende, et je le sais bien, moi, j'ai connu Erlida.
Kenith laissa le silence se prolonger, se tendre, plus ténu qu'une filandre.
« Comment cela ? »
demanda-t-il enfin d'une voix enrouée.
« Comment aurais-tu pu connaître Erlida ?»
La figure de proue eut un grognement de mépris.
« Parce que nous ne sommes pas aussi stupides que les humains qui oublient tout ce qui leur arrive avant leur naissance. La mémoire de ma mère et celle de la mère de ma mère et celle de la mère de sa mère, elles sont toutes à moi. Elles étaient filées en écheveau à partir du sable de mémoire et de la salive de ceux qui ont aidé à m'enfermer dans mon cocon. Elles ont été conservées pour moi. C'était mon héritage que je devais récupérer quand je m'éveillerai en dragon. Je possède en moi les souvenirs d'une centaine de vies. Cependant me voilà, moi, enfermé dans la mort. Je ne suis rien qu'un songe mélancolique.
« Je ne comprends pas, »
hasarda Kenith quand il fut évident qu'elle avait fini de parler.
« C'est parce que tu es idiot, »
rétorqua-t-elle d'un ton aigre. Personne. Il se l'était juré une fois, ne lui parlerait plus jamais ainsi. Ensuite, les mains purifiées de tout sang, il avait tenu sa promesse. Toujours. Il continuerait à la tenir, même aujourd'hui. Il se redressa.
« Idiot ! Libre à toi de me croire idiot ! Libre à toi de me traiter d'idiot ! Du moins suis-je réel, moi, pas toi ! »
Il glissa la béquille sous son bras et s'apprêta, en tanguant, à s'éloigner. Elle se retourna vers lui, les commissures de ses lèvres retroussées dans un rictus sardonique.
« Ah, c'est qu'il a un petit dard, l'insecte. Reste alors, parle-moi, pirate. Tu crois que je ne suis pas réel, mais je suis réel. suffisamment réel pour ouvrir mes coutures à la mer quand ça me chante. Il se peut que tu aies envie d'y réfléchir. »
Kenneth cracha par-dessus bord.
« Fanfaronnade et vantardise. Je suis censé trouver cela admirable ou effrayant. Vivacia était plus brave et plus forte que toi, navire, qui que tu sois. Tu te réfugies dans la première force de la brute, ce que tu peux détruire. Détruis-nous tous alors, et finissons-en. Je ne peux pas t'en empêcher comme tu le sais. Quand tu seras une épave coulée par le fond, je te souhaite bien du plaisir. »
Il se détourna résolument. Il fallait qu'il s'en aille, maintenant.
« Fais demi-tour et va-t'en, sinon elle ne te respectera pas. »
Il avait presque atteint l'extrémité du gaillard d'avant quand le navire tout entier eut un soubresaut. Il y eut un cri sauvage de la vigie dans la mâture et un concert de murmures provenant des matelots en bas dans leur hamac. Le second de retour à la barre cria une question d'une voix furieuse. La béquille de Kenneth ricocha sur le pont et dérapa sous lui. Il tomba de tout son long, ses coudes heurtèrent violemment le bordage. La chute chassa l'air de ses poumons. Alors qu'il gisait, haletant sur le pont, le navire se redressa de lui-même. En un instant, tout fut comme avant, excepté les voix inquiètes des matelots qui montaient. La figure de proue laissa échapper un rire doux, mélodieux, moqueur. Une voix plus ténue parla à l'oreille de Kenneth. Le petit charme de bois sorcier attaché à son poignet déclara brusquement
« Ne t'en va pas, imbécile !» Ne tourne jamais le dos à un dragon, sinon il va penser que tu es assez idiot pour mériter la destruction. »
Kenneth reprit péniblement son souffle.
« Et je devrais te croire ? »
grommela-t-il. Il parvint à s'asseoir.
« Tu es un peu dragon, toi aussi, si ce qu'il dit est vrai. »
« Il y a dragon et dragon. » Celui-ci n'a pas du tout envie de passer l'éternité attaché à un tas d'ossements. Retourne-toi, défie-le, provoque-le.
La ferme,
siffla-t-il.
Qu'as-tu dit ?
Demanda le navire d'une voix onctueuse, venimeuse. Il se remit debout à grand-peine. Après avoir réajusté sa béquille, il s'avança en se balançant jusqu'à la lisse de proue.
« J'ai dit, la ferme !»
répéta-t-il. Il empoigna le garde-corps et se pencha. Il laissa toute sa peur s'épanouir en colère.
« Sois du bois si tu n'as pas l'esprit d'être Vivacia !»«
Vivacia ? Cette chose molle, cette esclave, cette consentante, tremblante, servile création de l'homme ! « Plutôt me taire à jamais. »
Kenneth saisit son avantage.
« Alors tu n'es pas elle. Il n'y a pas un atome de toi qui s'exprimait en elle. »
La figure de proue dressa la tête. Si elle avait été serpent, Kenneth l'aurait cru prête à attaquer. Il ne recula pas. Il ne montrerait pas sa peur. Du reste, il ne pensait pas qu'elle pouvait vraiment l'atteindre. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses yeux roulaient de colère.
« Si elle n'est pas toi, elle a autant que toi le droit d'être la vie de ce navire. Et si elle est toi, eh bien alors, tu te moques, tu médis de toi-même. Dans tous les cas, peu m'importe. Ma proposition à la vive nef tient toujours. Je me soucie peu de savoir qui des deux l'acceptera. »
Voilà. Il avait joué son va-tout. Soit il l'emportait, soit il était perdu. Entre ces deux extrêmes, rien. Aussi bien n'y avait-il jamais rien eu. Tout à coup, elle exhala un souffle qui tenait du sifflement et du soupir.
« Quelle proposition ? »
demanda-t-elle. Kenneth eut un sourire en coin.
« Quelle proposition ? Tu veux dire que tu l'ignores ? « Oh là là, je croyais que tu étais tapis sous la peau de Vivacia. Il paraît qu'en fait tu viens seulement de t'éveiller. »
Il l'observa attentivement tout en se moquant gentiment. Il ne fallait pas l'amener jusqu'à la colère, mais il ne désirait pas non plus apparaître trop impatient de marchander avec elle. Les yeux de la figure de proue s'étrécirent et Kenneth changea de tactique.
faire de la piraterie avec moi, être ma reine des mers. Si tu es vraiment un dragon, alors montre-moi ta nature. Partons en chasse et faisons nôtre toutes ces îles. »
Le regard avait beau être hautain, les yeux s'élargirent brièvement, trahissant l'intérêt.
« Qu'est-ce que j'y gagnerais ?»
La question fit sourire le pirate.
« Qu'est-ce que tu veux ?»
Elle le guettait. Il se tenait droit et croisa son regard étrange avec un petit sourire. Elle le toisa des pieds à la tête comme s'il n'était qu'une putain nue dans une sordide maison de passe. Elle s'attarda sur son moignon, mais il ne se laissa pas démonter. Il l'attendait au tournant.
« Je veux ce que je veux, et quand je veux. Quand le moment sera venu pour moi, je te dirai ce que c'est. »
Elle lui lança ces mots comme un défi.
« Ah, dis donc !»
Il tira sur sa moustache comme s'il était amusé. En réalité, ses paroles lui coulaient le long de l'échine comme de l'eau glacée.
« Tu crois vraiment que je vais accepter ces conditions ?»
Ce fut à son tour de rire, un gloussement rauque qui rappela à Kenith le feulement modulé d'un tigre en chasse, ce qui n'était pas pour le rassurer. Non plus que les paroles qui suivirent.
« Bien sûr que tu vas les accepter, ces conditions. Car quel choix as-tu? Bien que tu rechignes à l'admettre, je peux te détruire, toi et ton équipage, quand ça me chante. Tu devrais t'estimer heureux de savoir que ça m'amuse de faire un peu de piraterie avec toi, qui trop embrasse mal étreint. »
Kenith refusa de se laisser intimider.
« Détruis-moi et tu te détruiras aussi. Où crois-tu qu'il sera plus amusant de couler par le fond et de reposer dans la vase? Fais de la piraterie avec moi et mon équipage te donnera des ailes de toile. Avec nous, tu peux voler à travers les vagues. Tu peux te remettre à chasser, dragon. Si les vieilles légendes disent vrai, ça devrait faire plus que t'amuser. »
Elle gloussa encore.
« Alors, tu acceptes mes conditions ?»
Kenith se raidit.
Alors je vais prendre une nuit de réflexion. Alors tu acceptes,
dit-elle dans la nuit. Il ne daigna pas répondre. Il empoigna sa béquille et traversa prudemment le pont. Arrivé à l'échelle, il se baissa, vint maladroitement à bout des degrés. Il adressa un bref salut aux deux matelots devant lesquels il passa. S'ils avaient surpris la conversation du capitaine avec le navire, ils furent assez avisés de n'en rien laisser voir. En traversant le Frontillac, il s'autorisa enfin à jouir un instant de son triomphe. Il avait réussi.
Il avait rappelé la vive nef à la vie, et elle le servirait de nouveau.
Il rejeta violemment sa part du marché.
Que pouvait-elle éventuellement vouloir pour elle-même?
Elle n'avait pas besoin de s'accoupler, ni de manger, ni même de dormir. Que pouvait-elle exiger de lui qu'il ne puisse lui octroyer facilement? C'était un bon accord.
« Plus sage que tu ne le crois, »
dit sa propre voix en miniature.
« Un pacte de grandeur même. »«
Vraiment ?» marmonna Kenith. Pas même devant son porte-bonheur, il ne se risquerait à trahir sa jubilation.
« Je me le demande, et d'autant plus que tu y donnes ton aval. »«
Fais-moi confiance, »
déclara le charme.
« T'ai-je jamais fait prendre un mauvais cap ?»«
Te faire confiance, et faire confiance à un dragon, »
rétorqua tout bas Kenith. Il jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne ne l'observait ni ne l'écoutait. Il porta son poignet à hauteur de ses yeux. Dans le clair de lune, il ne distinguait guère des traits minuscules de l'amulette que l'étincellement de ses yeux.
« Yémin a-t-il vu juste? Es-tu le tout petit reste d'un dragon mort-né ? »
Un instant de silence plus éloquent que des paroles.
« Et si c'était le cas ?»
demanda le charme d'une voix suave.
« Est-ce que je ne porte pas quand même ton visage ? Pose-toi la question. Caches-tu le dragon ou est-ce le dragon qui te cache?
Le cœur de Kenneth bondit dans sa poitrine. Un caprice du vent fit gémir tout bas le gréement. Les cheveux de Kenneth se dressèrent sur sa tête.
« Tu dis n'importe quoi !»
marmotta-t-il. Il baissa la main et empoigna fermement sa béquille. En se déplaçant sur le navire vers sa couchette, vers le repos, il fit mine de ne pas entendre l'imperceptible ricanement de l'objet attaché à son poignet. Sa voix était rouillée. Elle avait déjà chanté pour elle-même dans l'espace confiné et affolant de sa grotte. Sa voix avait résonné, aiguë et fêlée, lançant son défi aux parois de pierre et aux barreaux de fer qui la retenaient. Mais aujourd'hui, c'était différent. Elle élevait la voix dans la nuit et entonnait un antique chant de semonce.
« Venez !»
disait le chant à qui voulait l'entendre.
« Venez, car le temps du ralliement est proche. Venez partager les souvenirs. Venez cheminer ensemble vers le lieu des origines. Venez !»
C'était un refrain simple qui se voulait joyeux. Il était destiné à être entonné en chœur. À une seule voix, il semblait chétif, pitoyable. Quand elle monta vers le manque pour s'égosiller sous le ciel étoilé, il parut plus frêle encore. Elle reprit haleine et força la voix avec défi. Elle n'aurait su dire qui elle appelait. Nulle trace d'odeur de serpent dans l'eau, seulement l'affolant parfum du navire. Quelque chose dans ce navire qu'elle suivait suggérait une parenté. Elle n'arrivait pas à concevoir qu'elle pût avoir des liens de parenté avec un navire, et pourtant comment nier les toxines attirantes qui suintaient de la coque? Elle reprit son souffle pour chanter de nouveau.
« Venez retrouver votre famille. Prêtez votre force aux plus faibles. Ensemble, ensemble retournons à nos origines et à notre fin. » « Rassemblez-vous, créatures de la mer nées sur le rivage, pour retourner au rivage. Apportez vos rêves de ciel et d'ailes. Venez partager les souvenirs de vos vies. Notre heure est venue, notre heure est venue !»
Les dernières notes flûtées s'éteignirent, emportées par le vent. Celle qui se souvient attendit une réponse. Rien ne vint. Alors que désolée, elle replongeait sous les vagues, il lui sembla que les toxines qui traînaient, intangibles, dans le sillage du navire, acquéraient davantage de substance et de saveur.
« Je me trompe et je me tourmente moi-même, » se reprocha-t-elle.
Peut-être était-elle vraiment folle? Peut-être n'avait-elle recouvré la liberté que pour assister à la fin de sa race? L'affliction l'enveloppa, chercha à l'enfoncer. Mais elle reprit sa place derrière le navire pour le suivre là où il devait la mener.